T'es enfin chez toi, tu te poses sur le canapé, t'allumes l'ordi, t'as un message instantané. Hey, salut la miss, t'es vraiment très sexy, on pourrait faire connaissance, je cherche un plan pour la nuit. Quand j'ai vu ton profil, je suis tombé direct amoureux. Du coup, je t'envoie une toffe de moi, ma tub et un cœur bleu. Ce que j'ai le plus aimé chez toi, c'est ton regard de chienne qui attendrait de bouffer depuis au moins une semaine. Je suis sûre que t'es du genre à dîner étoilé, mais moi je payerai même pas pour des nems à volonté, parce que t'en vaut pas la peine, de toute façon t'es comme les autres. J'ai vu que t'avais lu, mais bien sûr tu fais la mort, parce que tu te crois au-dessus, tu t'es pris pour Rihanna. Quand je serai en bas dans ta rue, on verra ce que tu feras. Souffle, serre les dents, comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche dans le couloir d'à côté. T'es une pouf, c'est devenu courant de l'entendre trois fois par journée. Un gentil peut devenir méchant, faut pas croire au Disney. Bats-toi fillette,
bonjour, je vais vous présenter un livre qui s'appelle « La longue marche des femmes, des citoyennes aux suffragistes, de 1789 à 1920 ». C'est un livre qui est édité chez Phébus. 1789-1920. Faut-il parler d'un premier âge d'or du féminisme ? Ou des prémices douloureuses d'un combat épique du beau sexe pour tenter d'exister enfin ? Ce fut en tout cas une première et vraie longue marche, dont cet ouvrage retrace toutes les étapes, bien avant que le mouvement féministe contemporain ne prenne le relais à la faveur de la révolution culturelle amorcée par les événements de mai 1968. Quel chemin parcouru de 1789 à 1920 ? Que de batailles menées depuis ces femmes qui se veulent citoyennes en 1789 et réclame pour la première fois l'égalité des droits entre les deux sexes. Aux militantes suffragistes qui triomphent à tort en 1919, certaines d'avoir obtenu le droit de vote auprès de l'Assemblée nationale. Quelle désillusion ! Quelle désillusion lorsque le Sénat, après 3 ans d'atermoiement, refuse en 1922 de ratifier le projet de loi. Un long mais 20 combats réduisant à néant 130 années de lutte. Non, car des générations de militantes ont au moins permis de saper les fondements de 2 millénaires d'obscurantisme. Âge d'or ou non, cette époque fut si fertile en rebondissements, revendications et débats, espoirs et profondes désillusions, que ce livre a pour objectif de montrer à quel point notre société revient de loin quant au rapport entre hommes et femmes. L'histoire des origines du féminisme, de la Révolution à la fin de la Première Guerre mondiale, repose sur les témoignages des actrices de l'époque, une infime minorité de femmes qui eut, un long siècle durant, le courage de se battre pour tenter de soulever, voire simplement de contourner, la chape de plomb qui privait le sexe dit faible de tout droit réel. Il fallait une abdication sans faille et souvent une immense audace pour faire entendre les aspirations d'une moitié de la nation, au risque de passer de l'éventail à l'échafaud, selon l'expression de Monique Piètre. Cette histoire-là ne tient pas seulement aux interventions des femmes célèbres. D'Olympe de Gouges à Madame Roland, de Flora Tristan à Louise Michel, en passant par l'ambigu et exceptionnel Georges Sand, jusqu'à Marguerite Durand, sans oublier Hubertine Auclair, qui fut la première en 1882 à se dire féministe et à considérer que l'égalité des droits politiques entre les deux sexes est la clé de voûte de tout réel progrès. Certaines de celles qui prirent part à ce combat sont moins connues, telles Pauline Léon, Claire Lacombe, Jeanne de Rouen, Désirée Gay, Eugénie Niboyer et tant d'autres auxquelles ce livre donne aussi la parole. De même qu'aux nombreuses anonymes, les militantes des clubs sous la Révolution, les Vésuviennes de 1848, les égéries de la Commune, les partisanes de l'Union sacrée et sympathisantes pacifistes. Parallèlement aux engagements de plusieurs générations d'activistes, il convient de rappeler qu'une immense majorité des femmes de cette époque ne se sentit pas concernée par la lutte pour l'égalité des droits. Au-delà de leur rôle d'épouse et de mère, elles étaient paysannes, domestiques, ouvrières ou employées. Ce sont leurs conditions de vie et de travail qui seront traitées ici, de même que l'existence moins privilégiée qu'il n'y paraît, des femmes plus aisées. Cette vie de tous les jours fait partie intégrante de la longue marche des femmes. Bien sûr, cette longue marche intéressait avant tout les hommes et il eût été dommage de les ignorer. Les écrits et les discours des politiques ou philosophes, scientifiques ou écrivains, peuvent sembler aujourd'hui proprement hallucinants. Or, beaucoup de ces grands hommes qui ont œuvré à la grandeur de notre pays et bâti son auréole internationale. À les relire, comment douter que la France de ce long siècle fut incontestablement la patrie des droits de l'homme. Notre pacte sociétal fut fondé sur le socle d'une profonde et féroce misogynie, d'autant plus redoutable qu'elle s'est construite depuis l'Antiquité, sur un minutieux échafaudage de développements intellectuels, conçus et imbriqués de façon si machiavélique qu'ils furent revigorés chaque fois qu'ils paraissaient vaciller. Ce sont autant d'amères désillusions pour ces avant-gardes successives de passionnariat, réformistes ou radicales, face au code civil de 1804. Grande muraille de la discrimination qui ne sera sérieusement ébranlée que par des nouvelles lois de 1965 sur le mariage, l'autorité parentale, la filiation et le divorce. Première remise en cause réelle de l'homme et père tout-puissant. Mais voyons pourquoi et comment nous revenons de si loin. Les femmes, certes, mais aussi les hommes.
Juste un minuit, tout simplement. Juste un minuit, tout simplement. Juste un minuit, tout simplement.